Débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du débat BBC Afrique, Africa Radio. Bonjour Francis Laloupo.
Bonjour Liliane Niacha, bonjour à toute l'équipe de BBC à Dakar et merci à nos auditrices et auditeurs toujours fidèles à cette émission, à ce programme.
Et c'est toujours une grande joie de vous retrouver, Francis. Le sommaire.
Réciproquement, Liliane, le sommaire. Donc, controverse au Niger, après l'adoption par l'Assemblée nationale d'une nouvelle loi sur les écoutes téléphoniques.
Oui, celle-ci est censée renforcer la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée et donc garantir plus de sécurité aux Nigériens, selon ses défenseurs. Mais le texte a été adopté en l'absence des députés de l'opposition qui ont quitté la salle pour exprimer leur désapprobation. La société civile, elle, dénonce une loi liberticide. Cette nouvelle polémique intervient alors même que celle qui a suivi le rapport d'audit du ministère de la Défense qui évoque des détournements présumés des milliards de francs CFA entre 2014 et 2019 n'est pas retombée.
Deuxième sujet, en Guinée-Conakry, où l'opposition et le barreau accusent le pouvoir d'avoir falsifié la nouvelle constitution.
La version publiée au journal officiel ne serait pas la même soumise au vote des Guinéens lors du référendum du 22 mars dernier. Et parmi les modifications relevées et qui font débat, l'introduction des parrainages pour une élection. En clair, les candidats indépendants ne pourront plus briguer des mandats électifs comme cela était prévu dans le projet présenté lors du référendum. L'ordre des avocats qui parle de délinquance juridique demande le retrait du texte. Sera-t-il entendu? Et cette crise va-t-elle provoquer de nouvelles tensions politiques en Guinée? Débat à suivre dans votre émission.
Enfin, une question au Sénégal. La pression populaire a-t-elle eu raison des autorités politiques? Le gouvernement a annoncé cette semaine l'allègement de certaines mesures mises en place pour contenir la propagation du coronavirus.
Le couvre-feu, Francis, est passé à 23h et prend fin à 5h du matin. Les transports interurbains reprennent, de même que les réunions publiques ou privées. Réouverture aussi de restaurants, salles de sport et casinos. Quelques jours avant l'annonce de ces mesures d'assouplissement, des manifestations parfois violentes ont eu lieu dans certaines villes du Sénégal, dont Touba, la ville religieuse. Francis, à vous pour le plateau.
Oui, notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Niamey, capitale du Niger, Abi Mamadou Salissou, ministre de la Communication du Niger. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, monsieur le ministre. On vous présente très rapidement. Vous avez été 5 fois élu député depuis 1993. Vous êtes le président du parti Alliance démocratique pour le Niger Foussara, une formation de la mouvance présidentielle de 2001 à 2004. Vous avez été ministre de l'enseignement secondaire et supérieur, puis de 2004 à 2007, ministre du commerce et de l'industrie. Vous êtes donc actuellement le ministre de la communication du Niger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et un confrère invité dans cette édition, au téléphone depuis Dakar, Ousseynou Narguey, journaliste éditorialiste, fondateur du site d'information tract.sn. Ousseynou Narguey, bonjour.
Laloupo, bonjour. Bonjour à Liliane et à votre invité.
Merci.
Voilà, donc il y a le plateau en multiplex à Paris, à Dakar et à Niamey. À vous, Liliane.
Merci, Francis. Et nous allons commencer évidemment par le Niger, qui est régulièrement visé par des attaques terroristes et meurtrières attribuées à la secte Boko Haram. La nouvelle loi sur les écoutes téléphoniques, adoptée fin mai par les députés, devrait aider à lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale, d'après les défenseurs du texte, qui se recrutent surtout au sein du PNDS au pouvoir. Les interceptions des communications seront effectuées par des services techniques compétents sur toute personne contre laquelle il existe des sérieuses raisons, souligne-t-il encore. Côté opposition, on soutient que la nouvelle loi la vise et puis permet aussi de surveiller cette opposition à quelques mois de la présidentielle de fin décembre prochain. Et les propos du ministre de la Justice ont alimenté ces soupçons, s'exprimant avant le vote au Parlement le 29 mai dernier, Marou Amadou a affirmé que l'opposition était déjà écoutée. Des propos qui ont suscité un tollé au sein de l'opposition et la société civile. Monsieur le ministre Salissou, au regard de la vive polémique que ces déclarations ont suscité et aussi avec le recul aujourd'hui, Comment appréciez-vous ces propos de votre collègue du gouvernement? Est-ce que c'est un aveu? Est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'un dérapage?
Non, mais merci beaucoup. Moi, je pense que le ministre de la Justice, M. Mahamoud, s'est bien exprimé. Il a effectivement dit que c'est une véritable méprise, parce que vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est capable de couper et de couper, couler pour faire mal à ses propos. Mais sinon, il n'a jamais dit que l'opposition nigérienne est toujours à l'écoute ou a toujours été écoutée. Il a bien dit que les gens ont toujours été écoutés. Et si même les gens étaient écoutés il y avait quelque temps, maintenant, c'est fini, ça va être peut-être dans un certain ordre, parce que la loi l'a prévu. Je pense que le ministre l'a dit clairement à travers toutes les radios, et ce n'est pas seulement pour l'opposition qu'on fait une loi. Non, elle est impersonnelle.
Donc vous pensez que la position, que le tollé que cela a suscité ne se justifie pas? C'est un faux débat que posent l'opposition et la société civile, et vous endossez complètement la déclaration de votre collègue?
Oui, mais nous sommes obligés, nous soutenons vraiment notre ministre, parce que lui-même a dit que c'est une maîtrise, parce que dans tous les cas, il peut mal se filmer, le ministre, mais il a dit la vérité. Il a dit ce que vraiment les gens doivent savoir, il y avait une véritable maîtrise, parce qu'il y a une maîtrise malencontreuse que les gens ont voulu faire sur le net. Mais sinon, au niveau de l'Assemblée nationale, il n'a jamais dit que vous, de l'opposition, vous êtes dit, il parle aux parlementaires, il s'adresse à toute l'Assemblée nationale, il s'adresse même aux membres du gouvernement. Si vraiment il y avait écoute, alors c'est tout le monde qui avait été écouté. Mais aujourd'hui, les écoutes vont se faire dans un cadre purement clair et net à travers une loi. Parce que nous sommes là avec la société aujourd'hui, là, beaucoup de soubresauts. Vous l'avez dit, contre le terrorisme, les narcotrafiquants, le blanchiment d'argent. Il faut bien qu'on arrive à intercepter ces énergumènes qui font du mal dans nos pays, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali. Voilà pourquoi ce n'est pas simplement à cause des Nigériens, pour traquer les Nigériens. Pas pour traquer l'opposition, parce que tous, ici, nous avons été à l'opposition. Nous allons aux élections dans 6 mois. Nous ne pensons pas que notre gouvernement puisse faire du mal aux Nigériens. En tout cas, moi, je me porte en cause par rapport à ça. Et c'est que le ministre s'est bien exprimé, il a dit la vérité, parce que parfois, madame, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire.
Très bien, Francis.
Alors, est-ce qu'il faut comprendre, monsieur le ministre, Salichou, que le ministre Amadou considère que jusqu'ici, l'État se livrait illégalement des écoutes et que désormais, il va enfin légaliser cette pratique?
Oui, c'est ce qu'il a dit.
Ah bon? Donc, il y avait bien des écoutes illégales, alors?
Mais vous savez, dans tous les pays du monde, je crois qu'il y a des écoutes qui se font. Mais ce n'est pas les individus qui sont écoutés, parce que personne n'a été inquiété à cause de ça. Il y a bien sûr une loi qui avait été introduite il y a un an sur la cybercriminalité. Mmh. Il y a des gens peut-être qui ont été arrêtés parce qu'ils ont fait certains propos vraiment qui nuisent un peu à la population, qui des propos un peu séditieux, et les gens ont été arrêtés. Mais aujourd'hui, je pense que le Niger est un état de droit. Vous le savez très bien. Mmh. Et l'opposition doit jouer véritablement son rôle. Elle est dans son rôle. Nous ne sommes pas là pour juger le pouvoir de l'opposition, parce qu'une loi, elle est impersonnelle.
D'accord. Alors, vous venez de reconnaître quand même qu'il y avait des écoutes illégales jusqu'à ce jour. On va revenir donc à cette loi, monsieur le ministre. Au fond, voilà, si tout le monde est d'accord sur la nécessité de lutter contre le terrorisme, mais pour qu'une telle loi soit admise de tous, il faudrait que la population puisse faire confiance entièrement au pouvoir en place. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce contrat de confiance existe entre le pouvoir nigérien et les forces vives du pays ?
Mais absolument, parce que je crois que le chef de l'État actuel a été élu pour son deuxième mandat, il est à sa 10e année. Et dans 6 mois, il y aura des élections qui vont départager tous les Nigériens. Et je ne pense pas que le pouvoir actuel soit autant décrié. Mais vous savez, aujourd'hui, l'opposition fait par belle, c'est tout à fait normal. Moi qui suis ici, j'ai été à l'opposition au niveau du MLS de Nassara lorsqu'on y était. Les gens du PNDS étaient à l'opposition. Et ces gens aujourd'hui là, qui vont s'y faire étaient aussi nos amis. On se connaît tous au Niger. On a fait tous des compromis. On a eu à faire tous des compromissions, sinon il faut le dire. Donc je pense qu'aujourd'hui, le temps viendra où la vérité va sortir des urnes. Le peuple nigérien n'est pas contre le régime du Niger. Mais il y a une certaine classe politique nigérienne normale qui veut accéder au pouvoir. Il y a une société civile, si on peut l'appeler ainsi, qui, même parmi la société civile, il y en a qui disent véritablement la vérité, qui sont du côté du peuple. C'est-à-dire là, se tourne autrement que ceux qui sont en train de faire aujourd'hui.
Excusez-moi, monsieur, mais quand vous dites avec insistance qu'ils disent la vérité, c'est quoi cette vérité, selon vous?
La vérité, c'est les urnes. les élections vont venir et les gens vont dépasser, je crois, les uns et les autres.
Là, nous ne parlons pas des élections, monsieur le ministre.
Justement.
On parle de la loi. Alors, pourquoi instaurer. Alors, revenons à la loi, s'il vous plaît, monsieur le ministre Mamadou Issalissou. Hein, pour instaurer une telle loi, plutôt que de renforcer les services du renseignement dans votre pays.
Alors, je sais que moi, je suis membre du gouvernement, parce que le mandat est venu. Nous, quand on regarde le rapport de présentation de cette loi, nulle part ailleurs, on n'avait qu'à de faire mal à des individus. Et c'est bien précis. La loi, elle est encadrée par les nombres même qui sont chargés dans ma cellule.
Mais manifestement, il n'y a pas de consensus, monsieur le ministre. Il n'y a pas de consensus. Pour instaurer une telle loi, il faudrait qu'il y ait un consensus. Parce que qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui que cette loi ne sera pas détournée de son objet initial par ceux qui vont succéder au régime actuel ?
Non, le consensus, je crois qu'il y a un gouvernement élu par le peuple nigérien qui exerce le pouvoir et il y a une Assemblée nationale et représentation nationale.
Sauf qu'à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition ont quitté l'hémicycle pendant les débats et pendant le vote de cette loi.
Ils sont de leur droit, madame.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus.
Ils ont le droit de quitter ou de rester. Non, il n'y a pas de consensus parce que dans tous les cas, au niveau de l'Assemblée nationale, on a toujours dit que l'Assemblée nationale est toujours en nombre plus délibéré. Parce qu'on pense que tous les 111 députés à l'Assemblée nationale représentent le peuple nigérien. Et c'est vrai qu'il y a l'opposition, c'est vrai qu'il y a la majorité, mais il y a des députés qui ont quitté la majorité pour aller à l'opposition, et il y a des députés qui ont quitté l'opposition pour aller à la majorité actuellement dans l'Assemblée nationale du Niger. Donc je pense que l'Assemblée nationale étant toujours non pour délibérer, il n'y a absolument aucun problème. La loi est votée, elle est une loi impersonnelle, la loi est votée dans l'intérêt du peuple nigérien.
Monsieur le ministre, quelles sont.
Dans l'application de cette loi. On peut encadrer les choses.
Justement, ma question prochaine, c'est sur l'encadrement. Quels sont les dispositifs qui, selon vous, doivent être mis en place et comment encadrer ces écoutes téléphoniques pour garantir la vie privée des uns et des autres et n'écouter que des personnes contre lesquelles il existait de sérieuses raisons ?
Absolument, je ne saurais vous répondre tout de suite parce que je n'ai pas la main en face de moi, mais c'est prévu. Mais personnellement, en tant que ministre, membre du gouvernement actuel, je ne serai jamais d'accord à ce que la vie privée des individus soit touchée. Donc, ça veut dire que si nous sommes sur trois, qu'elle ne va pas toucher à la vie privée des gens.
Comment qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement cela, puisque c'est ça la crainte de la société civile et aussi d'une partie de l'opposition.
Madame, je n'ai pas le rapport de présentation de la loi. Sinon, j'allais amener la loi, j'allais vous lire ça, mais je n'ai pas devant moi. Sinon, j'allais vous le dire parce que même dans la constitution de la cellule qui doit gérer cette. Ce dossier-là, il y a un représentant de l'Assemblée, deux représentants de l'Assemblée nationale, dont un de l'opposition, un de la majorité, et des représentants de différents corps, de la magistrature, de la Cour de cassation, etc. etc. Donc il y a des personnalités qui, pour moi, sont pratiquement assermentées pour prendre en charge ces questions d'interception. Mais il n'est pas question pour le gouvernement du Niger de regarder ou d'écouter la vie privée.
Francis, permettez-moi de faire une autre observation, monsieur le ministre. De qui va dépendre cette cellule d'écoute ? Du ministère de l'Intérieur ?
Normalement, c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a initié.
Est-ce qu'il n'y a pas de risque que les objectifs de cette écoute soient dévoyés, étant donné la position du ministre de l'Intérieur qui est. Candidat du parti au pouvoir à la prochaine présidentielle.
Mais absolument, pour l'instant, moi je pense que nous-mêmes qui sommes là, nous sommes tous des Nigériens, madame. Nous sommes tous des responsables de partis politiques, nous sommes tous des hommes politiques et nous avons besoin d'avoir une organisation des élections transparente, libre, inclusive.
Nous sommes d'accord, je voulais juste donc, vous. Monsieur le ministre, ma question est celle-ci. Le ministre de l'Intérieur va superviser ses écoutes et il est lui-même candidat à la prochaine présidentielle. Est-ce que vous ne voyez pas des risques de conflits d'intérêts ?
Oui, on peut parler dans notre cas des risques de conflits d'intérêts, mais je crois que la commission qui est là met le ministre de côté par rapport à l'exécution ou à la mise en application de cette loi. Je vous dis sincèrement, je n'ai pas l'homme en face de moi, mais je sais que nous n'avons pas fait cette loi-là pour que le ministre de l'Intérieur ait dans ses mains un dispositif qui puisse réprimer les Nigériens. Il n'en est pas question. Et il est certain que le ministre de l'Intérieur que je connais ne le fera pas. Et dans tous les cas, il ne revient pas au ministère de l'Intérieur de gérer cette situation d'interception. C'est clair et net, il y aura tout le ministère de l'Intérieur. En tant que candidat, un jour ou l'autre, il ne sera pas là parce qu'il ne peut pas être jugé parti.
Bon, en France, vous dites qu'il faut faire confiance en fait au ministre de l'Intérieur et au pouvoir. On va demander à Ousseynou Narguey d'intervenir pour un premier commentaire, s'il vous plaît, mon cher confrère.
Écoutez, cher confrère, déjà, je voudrais saluer l'ingénuité assez rafraîchissante de votre invité, le ministre de la Communication Salissou, quand il accepte que le Niger, l'État, a écouté hors de la loi, hors d'une législation, les Nigériens, et quand il dit aussi que la classe politique nigérienne a pu se livrer de part et d'autre à des compromis, mais même à des compromissions. Bon, ceci étant dit, pour en revenir sur la loi, je n'ai pas le contenu exact de la loi, mais je pense que ce qui est important, ce n'est pas que la loi autorise des écoutes téléphoniques, mais surtout la manière dont elle les autorise. Elle devrait, cette loi, disposer que le ministère de l'Intérieur, la police, les services qui dépendent de ce ministère-là, fassent une demande rogatoire auprès d'un juge pour pouvoir mettre sur écoute quelqu'un. Je pense que ça, c'est un minimum. Au-delà de ça, je crois aussi que c'est une loi rétrograde qui ne va pas dans le sens des avancées technologiques que nos pays connaissent, parce que les présumés narcotrafiquants ou djihadistes dont on parle, ils n'utilisent certainement pas une ligne téléphonique classique, ils utilisent l'application, même pas WhatsApp, mais Telegram, ils sont sur des téléphones satellitaires. Donc voilà, je pense que c'est un peu essayer d'arrêter la mer avec ses bras quand on
donc parle. Vous voulez dire que les écoutes, c'est inadapté, ce n'est plus, c'est inadapté.
Il est inopérant. Le motif qui est mis en avant, qui est celui d'une plus grande sécurité des Nigériens, notamment d'un point de vue de la lutte contre le djihadisme, ça me semble quand même un peu populiste et démagogique comme raison avancée, parce que ça n'arrivera pas à régler cette question-là. Aujourd'hui, même les citoyens lambda, ne serait-ce que pour des questions de coût des données mobiles qui sont moins chères que celles de l'appel téléphonique classique, appellent par WhatsApp qui est crypté, chiffré de bout en bout. Donc je ne vois pas en quoi ça va consister. Et l'autre chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que je pense que le Niger a une commission des données personnelles. Il faudrait que les écoutes ne soient pas conservées ad vitam aeternam et qu'on puisse informer la dite commission des données personnelles de ce que les écoutes en question, après un certain temps, ont été détruites. Et je suis sensible aussi au fait que le ministre Bazoum, qui est le dauphin investi par le parti au pouvoir,
le PNDS,
pour la prochaine élection, le PNDS, et aussi au ministère de l'Intérieur. On sait que les ministres de l'Intérieur dans tous les pays du monde, la première chose qu'ils font le matin en arrivant dans leur bureau, c'est de lire les fiches blanches que les renseignements déposent sur leur bureau. Et maintenant, si en plus ils doivent lire...
Donc pour vous, il y a un réel risque d'écouter l'opposition et que cela serve à l'élection du ministre de l'Intérieur qui est candidat ?
Il y a un risque d'écouter de l'opposition, mais je ne pense pas que ça puisse déboucher sur des mises en accusation des personnes de l'opposition sur la base de propos qu'ils auraient tenus. Ça peut peut-être aider le renseignement, si tant est-il, qui se laisse écouter sur des lignes classiques, mais on ne peut plus mettre personne en accusation sur la base d'écoute ou d'enregistrement, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut prouver qu'un enregistrement est authentique. Ce n'est plus prouvable parce qu'il y a des applications qui permettent de falsifier la voix et de faire des montages audio-téléphoniques.
On écoutera la réaction du ministre après une courte pause. Dans quelques instants, nous sommes donc en compagnie de Abi Mamadou Issalissou, ministre de la Communication du Niger. C'est notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. A tout de suite.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Abi Mamadou Salissou, ministre de la Communication du Niger, est notre grand témoin dans cette édition. Notre confrère invité au téléphone depuis Dakar, Ousseynou Narguey, journaliste, éditorialiste, fondateur du site d'information tract.sn. On continue donc de parler de cette loi initiée par le pouvoir nigérien sur des écoutes téléphoniques, loi controversée bien sûr, monsieur le ministre Abi Mamadou Salisu. Est-ce que vous pouvez donc répondre à l'intervention de notre confrère Ousseynou Largué et aussi peut-être répondre à une question pratique, parce que moi aussi je ne suis pas rentré dans le détail de la loi, mais je voulais savoir s'il s'agit d'une loi d'exception, d'une loi de circonstance ou une loi qui va être instaurée pour durer dans le temps.
Non, mais ce n'est pas du tout une loi de circonstance. On ne peut pas faire de loi de circonstance. La loi, elle est faite pour le futur, pour servir véritablement le Niger, pour éviter à ce que le Niger retombe dans ce que beaucoup de pays ont eu par rapport justement
donc
à la lutte
contre le terrorisme. Donc c'est une loi qui ira au-delà même de la lutte contre le terrorisme. D'accord, très bien.
Non, mais la loi, elle est justement pour ça. C'est uniquement pour ça que la loi a été adoptée. Si désormais la loi ne sert pratiquement à rien et que notre pays vit dans des situations comme il a toujours vécu il y a plus de 50 ans, je pense que la loi n'a plus sa raison d'être. On ne l'a pas faite pour des individus par rapport à ce, justement pour un peu répondre à notre ami tout à l'heure de Dakar. Non, 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 c'est pas ça. Nous ne pouvons pas faire une loi pour que Bazoum soit élu président de la République. Ça n'a jamais été le cas. Et vous savez, on ne sait pas qui est qui seront candidats prochainement. Même au niveau de la majorité, il y a des gens qui sont déjà annoncés comme candidats aux élections présidentielles. Et vous pensez qu'ils vont accepter d'établir, d'adopter cette loi-là pour que nous soyons réprimés? Non, ce n'est pas possible. Le Niger a toujours été un laboratoire en démocratie. Le Niger a toujours été un état de droit. Nous sommes dans une démocratie hyper agissante et nous ne pensons pas, et je vous le dis clairement, que cette loi-là soit ou bien fasse l'objet de réclamations et surtout des mesures pour bâillonner qui que ce soit, encore moins notre opposition, parce qu'on ne saura pas, on ne sait pas qui demain sera aussi là pour accompagner Bazoum. Bazoum peut être candidat aujourd'hui, être au second tour, il a bien besoin peut-être
d'alliance.
De quelqu'un de l'opposition aujourd'hui. Voilà, donc
monsieur,
pourquoi réprimer
ces Nigériens?
Je ne pense pas que cette loi soit faite comme ça, madame.
Je voulais juste faire une remarque, monsieur le ministre, parce que vous parlez beaucoup des élections. Pourtant, nous, on n'a pas évoqué de toutes les élections. Quoi. On a le sentiment que votre principale préoccupation aujourd'hui, c'est cette prochaine présidentielle, alors que nous parlons d'une loi qui est censée s'inscrire dans la continuité de l'État, quel que soit évidemment le régime.
Mais, vous savez, quand l'opposition a fini de parler, l'opposition a bien dit, j'ai entendu un ami que je parlais d'un député de l'opposition qui dit que dans 6 mois, dans tous les cas, ils vont venir au pouvoir. Ils vont chasser ce régime, donc ils vont reprendre la loi. Voilà pourquoi je vous réponds comme ça. Mais sinon, si vous voulez, vous pouvez couper là où j'ai parlé des élections. Mais dans tous les cas, nous parlons de la loi. Et pour nous, la loi n'est pas du tout ce que vous appelez une loi liberticide, même si vous ne voulez pas donner le nom. C'est une loi qui a été faite.
En tout cas, c'est le mot qu'a utilisé l'opposition.
Le mot n'est pas utilisé par vous.
Monsieur le ministre, je voudrais qu'on aborde l'autre question, s'il vous plaît, monsieur le ministre, un sujet aussi important dans votre pays, c'est de ce rapport de l'audit sur la passation des marchés au ministère de la Défense. Celui-ci chiffre le montant présumé détourné sur des marchés non exécutés à des milliards de francs CFA. Pourquoi il n'y a toujours pas d'arrestation 2 mois après que le procureur ait déclaré qu'il avait reçu le rapport?
Madame, je crois que le rapport, certainement, la justice n'est pas encore fini de faire des écoutes. Parce que quand l'État a su ça, le chef de l'État a connu tout de suite une instruction générale d'État pour aller vérifier ce qui se passait. L'audit a été fait, transmis au niveau du gouvernement, et rapidement le gouvernement l'a transmis au niveau du procureur qui lui a transmis pour investigation à la police judiciaire. Tous ceux qui sont incriminés dans ce dossier sont en train de passer ou ont déjà passé au niveau de la police judiciaire. Et après les écoutes de la police judiciaire, ça va être transmis aussi à la justice. Dans un état de droit, la justice prendra ses responsabilités et tous ceux qui sont incriminés répondront de leurs actes. Quel que soit par exemple les gens, il n'y a absolument aucun problème. L'État doit être mis dans ses droits si l'État est spolié.
Ousseynou, vous voulez réagir ?
Oui, je disais que je pense que dans cette affaire des fonds détournés au ministère nigérien de la Défense...
Pardon, Ousseynou, présumé détourné ?
Enfin, oui, détourné, tant que ce n'est pas prouvé par une décision de justice, on peut dire présumé. Mais ce que je dis, c'est que l'État du Niger a annoncé la couleur dès le départ en disant qu'elle était disposée à transiger avec ceux qui acceptaient de restituer les fonds. Donc je pense qu'ils sont dans cette logique-là. Et je voulais en revenir 30 secondes, sur cette histoire d'écoute téléphonique pour dire que dans les pays démocratiques, dont ce que le Niger se prévaut d'être, quand il y a une présomption de crime ou de délit, on peut saisir la police ou la gendarmerie qui fait une réquisition à l'opérateur téléphonique pour que on intercepte la télécommunication qui a été faite, parce que même les opérateurs téléphoniques conservent nos conversations pendant un tout petit moment. Donc je pense que cette loi, pour moi, elle est inopportune, elle est superfétatoire.
Merci.
Et elle est un peu de trop.
Merci.
Dernière question peut-être, monsieur le ministre, sur cette affaire de détournement de fonds présumé. Est-ce que vous pensez que cette affaire pourrait connaître un épilogue judiciaire avant la prochaine présidentielle au Niger?
Ah oui, absolument, absolument, tout à fait. Parce que c'est clair et net, vous savez très bien que les gens expliquent là-dessus. Mais il y a bel et bien des affaires, beaucoup de choses sont passées au Niger dans le cadre pénal, ils ont toujours été jugés. Et cette affaire, très certainement, va être jugée d'ici les élections prochaines.
Monsieur le ministre, le Nigérien se demande...
Excusez-moi, je vais juste un peu revenir. Vous savez, tout à l'heure, mon cher frère a un tout petit peu intervenu par rapport à cette question d'écoute. Alors, il a dit dans les pays démocratiques, les autres se targuent d'être un pays démocratique. Effectivement, nous sommes un pays démocratique. Et il a bel et bien aussi parlé d'interception au niveau de la police. Alors, quelle est la différence entre l'interception au niveau de la police et l'interception qu'une loi propose et qu'une loi dit? C'est la loi aujourd'hui qui nous confère toute responsabilité. Donc il n'y a pas de problème si la police pouvait faire ça à travers les réseaux, les canaux de téléphonie cellulaire. Pourquoi pas l'État, qui lui est légitime, ne pas le faire?
Pardonnez-moi, Hussein, on ne peut pas revenir sur le débat, il faut qu'on avance. Alors, monsieur le ministre, je vais vous demander, s'il vous plaît, en 30 secondes, cette autre question sur ce rapport. Alors, Hussein nous mentionnait tout à l'heure le fait que le gouvernement avait menacé de transmettre à la justice uniquement le dossier de ceux qui auraient refusé ou qui ne rembourseraient pas. Le procureur a assuré avoir reçu le rapport et voilà, vous dites qu'il y a des personnes qui ont été convoquées, mais quelle est votre position? Est-ce que vous êtes favorable à une suite judiciaire ou simplement à des remboursements comme l'a suggéré le gouvernement un peu plus tôt?
Le gouvernement, c'est un peu plus tôt qu'il l'a dit, il pensait que l'affaire peut-être était moindre que ça, mais quand on a vu un peu l'ampleur, le dossier, aujourd'hui, madame, il est entre les mains de la justice. Et dans un état de droit, il y a séparation des pouvoirs. La justice est libre de faire ce qu'elle veut par rapport à ce dossier-là. Tous ceux qui sont incriminés...
Au vu du rythme de l'enquête, certains Nigériens se demandent quelles sont les réelles intentions du président Issoufou. Où va le gouvernement dans ce rapport? Parce que le rythme de judiciaire semble lent pour certains.
Non, ça ne semble pas lent, parce que nous qui sommes ici, nous sommes chaque fois informés de ce qui se passe. Et bientôt, vous serez informés. Et si vous voulez, je peux vous donner de temps en temps, si vous voulez, la plupart des informations. Mais je ne suis pas juge, je vais attendre jusqu'à ce que
vous entendez. Allez-y, monsieur le ministre,
nous sommes preneurs. Pour vous le dire. Non, je n'ai pas de choses à vous dire, j'ai dit tout de suite.
Donc il y aura des arrestations dans les semaines qui viennent?
Alors, je ne sais pas, il ne me revient pas, moi je ne suis pas juge, je suis très loin d'être juge, je ne suis pas juriste ou je ne m'occupe pas de la justice. Je suis ministre de la communication d'un gouvernement qui a transmis un dossier à la justice et normalement, quand il y a faute, il y a bel et bien interpellation.
Merci. La pause, prochain sujet.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec notre grand témoin invité au téléphone depuis Niamey, Abiy Mamadou Issalissou, ministre de la Communication du Niger, et notre confrère invité au téléphone depuis Dakar, Ousseynou Narguey, journaliste, éditorialiste, fondateur du site d'information tract.sn. Nous parlons à présent de la Guinée-Conakry et d'une constitution fantôme à l'issue du référendum contesté du 22 mars dernier. Un nouveau texte de la constitution avait recueilli, on s'en souvient, plus de 90% de votes positifs. Problème, alors, après l'étape de promulgation, le texte publié dans le journal officiel le 14 avril dernier apparaît en différents points bien différents de celui qui avait été soumis au vote des électeurs. Et malgré les dénégations du gouvernement, l'Ordre des avocats de Guinée-Conakry, qui a relevé plusieurs dispositions inexistantes dans le texte initial, dénonce, je cite, « une délinquance juridique » et demande le retrait de ce texte en précisant que, je cite, « le projet qui a été proposé au peuple à l'annonce du journal officiel se trouve modifié ou falsifié Fin de citation. Alors, quel sera le sort de cette nouvelle constitution dont le projet fut dès l'origine contesté par l'opposition et dont la mouture finale ne correspond pas manifestement à ce qui fut proposé au vote des électeurs. Voilà donc la situation, monsieur le ministre. Une première question pour vous. Alors, selon le ministre de l'Hydraulique, le ministre guinéen de l'Hydraulique, M. Papakoli Kourouma, ce n'était pas la version finale du texte qui avait été soumise aux électeurs, car, dit-il, le texte était, je cite, « en perpétuelle modification avant et après son adoption ». Fin de citation. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez qu'on peut soumettre à référendum un texte constitutionnel incomplet et en cours de formulation ?
Non, pour ce qui concerne, en tout cas pour ce qui concerne ma personne, je ne voudrais pas faire de l'ingérence dans les affaires d'un pays frère comme la Guinée.
On s'en doute un peu.
En tant que démocrate, je pense que c'est un peu compliqué, mais dans tous les cas, je pense que de manière fondamentale, nous devons présenter désormais à nos populations le texte final, et ce texte-là doit être adopté et accepté par le peuple ou rejeté par le peuple.
Au Sénat anglais, on va donc se tourner vers vous. Hein. Un texte donc soumis à référendum qui se trouve ensuite remanié, reformulé avec de nouvelles dispositions, des articles qui engagent quand même la vie d'une nation. Comment peut-on expliquer une telle démarche de la part d'un État ?
Le ministre de la Justice guinéen, dans son point de presse, a été quand même assez cavalier parce qu'il n'a même pas accepté les questions de la presse après. Il a fait sa déclaration et qu'il dise, qu'il puisse dire que le texte soumis à référendum était toujours en cours de formulation avant sa promulgation. Ça pose énormément de problèmes d'un point de vue de sécurité juridique dans nos pays. Et de ce point de vue-là, moi, ce que je pense vraiment, c'est qu'il y a une utilisation du référendum dans beaucoup de nos pays africains, et le Sénégal, pour son dernier référendum de 2016, n'y a pas, peut-être même pas échappé, où au lieu de poser une question simple sur un objet simple, à laquelle on répond par oui ou par non, on met tout un tunnel de questions sur laquelle les gens ne sont pas outillés pour avoir la compréhension exacte de ce sur quoi on est en train de leur demander de se prononcer. Je crois qu'une constitution dont on n'est pas en train de changer un article, mais une constitution nouvelle, remaniée, de chant en comble, qu'on veut présenter comme ça à référendum, déjà moi, dans le principe, ça me pose problème, parce qu'on n'a pas donné à chaque citoyen guinéen un exemplaire de cette constitution-là oui. qui est proposée à référendum. Donc déjà, l'avis n'était pas éclairé pour pouvoir être donné de manière, normale.
En fait, ce que vous souliez aussi, nous, c'est que voilà, les électeurs guinéens qui étaient appelé à voter donc sur ce texte n'était pas réellement informé du contenu de ce texte sur lequel ils ont été donc appelés à se prononcer.
Non, certainement pas informé du contenu de ce texte dont je pense qu'il aurait été pu être fixé sur un site internet où les gens auraient pu le consulter, en faire des captures d'écran, l'imprimer, le garder pour qu'on ait chacun ait une version qui fait foi. Mais ce que je veux surtout dire, c'est qu'il y a, excusez-moi du terme, un je m'en foutisme du régime Condé, lequel Alpha Condé, j'ai entendu, j'ai lu dans un magazine hebdomadaire, mensuel actuellement panafricain, dire que ses adversaires avaient une mentalité de poutiste, mais je suis désolé, ce qu'on peut lui rétorquer, c'est que lui, il a une mentalité de dictateur, tout ancien opposant de longue durée qu'il a été.
Pardonnez-moi, Ousenou, revenons à la Constitution, il ne s'agit pas du procès d'Alpha Condé, mais avec ce que l'opposition et le barreau dénoncent, est-ce que vous pensez que la manipulation a été planifiée, qu'il y a une réelle volonté de modifier le texte qui a été révisé et soumis au référendum ?
Il y a une réelle volonté de modifier ce texte. Il y a 21 modifications qui ont été notées par le barreau guinéen, parmi lesquelles des modifications qui concernent quelque chose de très important, c'est l'élection présidentielle, où aujourd'hui on empêche les candidats indépendants de pouvoir réunir les conditions pour être pour se présenter. Déjà, la candidature indépendante en Guinée à la présidentielle est exclue. C'est quelque chose quand même qui est un recul démocratique. Mais merci. Pour répondre précisément à votre question, oui, le texte a été remanié et il y a une volonté qu'on prête au pouvoir depuis que cette histoire a commencé, qui est celui de permettre et de faciliter un troisième mandat auquel il n'a pas droit du professeur Alpha Condé.
Monsieur le ministre Abiy Mamadou Salissou, c'est à Niamey que s'est tenue il y a quelques mois une rencontre importante d'anciens chefs d'État. Le président Mamadou Issoufou, le président du Niger, a déclaré très tôt d'ailleurs qu'il n'allait pas donc se lancer dans l'aventure d'un troisième mandat. Le Niger est devenu, je dirais, disons, le centre, le lieu où... la question du non au troisième mandat pour les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest a été d'une certaine manière actée. Alors, en tant que ministre du gouvernement nigérien, quel regard vous portez, je dirais, sur ces aventures constitutionnelles qu'on voit aussi aujourd'hui émerger en Afrique de l'Ouest? Est-ce que cela vous inquiète en ce qui concerne, si on s'en réfère, je dirais, à la charte de la CEDEAO, qui quand même se fonde aujourd'hui sur le respect des textes et surtout sur un attachement très profond en tout cas, et affirmé à la démocratie?
Oui, absolument. Moi, ça me choque un tout petit peu. Ça me choque d'ailleurs parce que c'est comme si nous sommes des aérés, excusez-moi du terme. L'Afrique doit avancer quand même du point de vue démocratique. Quand nous acceptons, un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois ou de 4 ans, renouvelable une seule fois, je pense que nous devons aller jusqu'au bout. Nous ne devons pas triturer nos constitutions. Et d'ailleurs, la CEDEAO l'a bel et bien dit à notre grand frère, le président
Alpha Condé. Guinéen.
Que la CEDEAO, Alpha Condé, bien sûr, elle avait été dissuadée par rapport à ça pour ne pas organiser le référendum. Il l'a fait. Je crois que nous ne pouvons que regarder cet état de fait-là. Mais ce qui est sûr, c'est que pour revenir à votre question, au Niger, un président l'a essayé, ça n'a pas été très bien, il y a eu un coup d'État.
Mamadou Tandja.
Aujourd'hui, le Mamadou Tandja, nous étions sénateurs de notre région, même si on avait quitté 3 ans auparavant, avec un Mamadou, avec à l'issue d'une motion de censure. Mais ce qui est sûr, c'est que le président actuel, le président Mamadou Issoufou, a déclaré, il m'a dit personnellement, par mon petit nom, ça là, je ne briguerai pas un troisième mandat, je vais quitter le pouvoir le 2 avril 2021. Dans tous les cas, je vais organiser de très bonnes élections, libres, transparentes, inclusives, et le meilleur que le meilleur gagne. J'ai bel et bien un candidat, la personne de Mamadou Mohamed Bazoum, mais je ne peux pas obliger l'Ingénie à voter pour lui. Mais je ferai tout pour qu'il y ait un chef d'État élu à qui je remettrai les rênes du pouvoir. Il me l'a confirmé il y a à peine 72 heures.
Ousseynou, le vice-président de l'Assemblée nationale guinéenne, Fodé Mohamed Souma, dans une interview à Guinée News, a dit avoir constaté qu'en comparant la constitution soumise au référendum le 22 mars dernier à celle qui a été promulguée, il a constaté qu'il y avait un problème dès la 5e page et ce, sur chaque page. Il a déclaré qu'il n'est pas question que le ministre de la Justice fasse gober, ce sont ses mots, cette nouvelle constitution. Et c'est-à-dire que la constitution qui a été promulguée est de rigueur. Il conclut en disant que ils entendent poursuivre le travail d'opposants pour que ces rectifications soient faites afin que la constitution qui a été votée soit la copie conforme de celle qui doit être promulguée. Alors voici ma question. L'opposition qui a boycotté le double scrutin, c'est-à-dire les législatives et le référendum, a-t-elle encore la légitimité aujourd'hui de prendre la parole ou de contester quoi que ce soit sur cette constitution dont elle n'a pas participé au vote?
Bon, la légitimité peut être questionnée, mais elle en a la légalité, dans le sens où Fodé Souma, qui d'ailleurs est un présidentiable candidat, il l'a été, il le sera, dans Guinée, il a la légalité d'être au sein d'une instance institutionnelle dans laquelle s'examinent les lois existantes et à venir de la Guinée, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est dans son bon droit et dans son rôle d'opposant aussi, je crois. Et je salue également cette démarche-là qui nous évite peut-être que les choses ne dégénèrent dans la rue guinéenne dans laquelle il y a eu plusieurs morts ces derniers mois, y compris avant et après le référendum et les législatives. Donc je crois que...
Mais avec nouvelle crise, les tensions sont-elles évitables?
Écoutez, moi je compte sur les organes juridictionnels de la Guinée, qui devraient... leur Cour suprême ou leur Conseil constitutionnel, je ne sais pas lequel de ces deux organes existe en Guinée, mais doit avoir la capacité de s'autosaisir de ce document-là et de cette promulgation. application des lois sa constitutionnalité, mais a posteriori également la constitutionnalité de celle-ci peut être examinée par la Cour suprême guinéenne, y compris sur saisine
c'est
par
la cour, c'est
députés
la cour constitutionnelle.
De l'opposition. La c'est... Cour constitutionnelle, donc.
Francis, je voudrais juste demander à M. le ministre, en un mot, pour vous, quelle est la solution aujourd'hui? Faut-il simplement retirer ce texte pour falsification, comme l'exige le barreau, ou organiser un nouveau référendum? Quelle solution?
Je pense que la meilleure solution dans un pays comme la Guinée, qui doit être une référence avec tous ses chefs d'État, et surtout lui-même le chef de l'État, qui est un très combattant de la démocratie, c'est de s'asseoir sur une table et de trouver une solution avec son opposition et avec toute la classe politique guinéenne. Si le texte n'est pas parfait, on doit le parfaire et le soumettre éventuellement à un référendum. Ou bien revenir complètement sur ça pour éviter à ceux que vraiment les choses s'enlisent et que le pays se retrouve encore dans une situation inexplicable. Nous avons besoin de paix et de sécurité dans notre pays. Il ne faut pas que, par des textes peut-être qui ne sont pas bons, qu'on arrive à ces genres de situations, surtout dans la loi fondamentale.
Merci. Francis, il est temps de passer au dernier sujet, sans transition. Vous êtes là?
Je suis là, vous avez raison.
D'accord.
Sans transition.
Ok. Lorsque le président sénégalais Macky Sall a autorisé la réouverture des lieux de culte le 11 mai dernier, certains l'avaient accusé d'avoir cédé aux menaces de manifestations alors brandies par certains leaders et fidèles religieux. L'histoire se répète-t-elle avec les mesures d'assouplissement annoncées cette semaine? En tout cas, le gouvernement a levé une bonne partie de ces restrictions imposées mi-mars dernier pour limiter la progression du Covid-19. Quelques jours plus tôt, des manifestations parfois heurtées ont été rapportées dans diverses localités du Sénégal, où des habitants ont exprimé leur frustration et un ras-le-bol après plus de 2 mois de restrictions. Sedina Alioune Digo de BBC Afrique revient sur ces mesures d'assouplissement annoncées par le gouvernement sénégalais.
Le ministre de l'Intérieur du Sénégal, Aliou Ngoundiaye, a déclaré que le début du couvre-feu est repoussé de 2 heures. Il est désormais de 23h à 5h du matin. Les restrictions de transport entre régions sont aussi levées dans les conditions du couvre-feu. Les restaurants, les salles de sport et les casinos sont autorisés à rouvrir. Les autorités sénégalaises insistent sur le fait que l'application de ces mesures d'assouplissement doit se faire dans le respect du port du masque et de la distanciation physique. Les manifestations contre le couvre-feu ont commencé mardi dans la ville religieuse de Touba et se sont étendues à plusieurs villes du Sénégal mercredi. Une source policière a déclaré à la BBC que plus de 200 personnes ont été interpellées. Elle confirme également que des véhicules de police ont été endommagés lors des manifestations. En début de cette semaine, le Sénégal a décidé de reporter la réouverture partielle de ses écoles prévues pour le 2 juin. La rentrée scolaire des élèves en classe d'examen a été suspendue après la confirmation de cas de Covid-19 chez les enseignants de Ziguinchor, dans le sud du pays.
Ousmane Narké, je commence par vous qui êtes à Dakar. Les manifestations ont-elles rendu la tâche plus facile au gouvernement? Peut-être que lui aussi pensait qu'il était temps d'alléger ses mesures. Ou alors pensez-vous que Macky Sall a réellement cédé aux protestataires qui ont imposé leur agenda?
Écoutez, je pense que Macky Sall a souhaité que les manifestations ne deviennent pas des maquifestations qui remettraient en cause son propre pouvoir, qui est vraiment remis en question dans ce mouvement finalement mondial de retour à l'humilité de nos gouvernants, où on est obligé quelque part de faire ce dont les populations ont envie, ce qu'elles demandent profondément, plutôt que de décider sur elles. Le président Macky Sall avait décrété du côté du 20 mars un état d'urgence et un couvre-feu. Alors, il l'a allégé progressivement, comme vous savez. Et de ce point de vue-là, il y a eu beaucoup de demandes populaires pour cela. Or, dans le premier allègement qu'il a fait le 11 mai, quand il a annoncé la réouverture des lieux de culte, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas été suivi par les maisons, les familles religieuses, oui, les grandes familles religieuses.
L'Église catholique avait même qualifié la décision de prématurée. C'est voilà, comme si le président allait plus vite que les leaders religieux.
C'était un camouflé parce que les leaders religieux ont fait comprendre que le risque de contamination était encore là. Ils ne comprenaient pas que le gouvernement, quand il y avait zéro mort, ferme les frontières, décrète l'état d'urgence. Et quand on en était à 20 ou 30, disent qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Mais je crois que Macky Sall, quand même, on lui a un peu forcé la main parce que après les manifestations d'il y a 3-4 jours, des transporteurs, notamment dans la ville religieuse de Touba, qui n'est pas habitué à de telles scènes, et puis enfin les échauffourées, les pneus brûlés qu'il y a eu ce mercredi de cette semaine où nous enregistrons à Dakar même, où une personne a été percutée d'ailleurs par une voiture.
Merci,
et en est morte, et dans différentes villes de l'intérieur, je pense que Macky Sall a trouvé un prétexte bienvenu pour aller dans le sens quand même qui est le seul possible, qui est une levée de ces contraintes que le Sénégal ne peut ni socialement ni économiquement supporter.
Parce merci, que merci Ousseynou. Francis, on va permettre à notre invité.
Une question bien au sûr. Ministre Abiy Mamadou Salissou. Le Niger aussi fait face, bien entendu, à cette crise sanitaire. Alors la question qu'on se pose évidemment, donc vous avez observé la situation au Sénégal, votre pays, le Niger aussi, fait face à cette crise sanitaire, bien sûr. Comment parvenir, je dirais, à trouver le juste équilibre entre la gestion de cette crise sanitaire avec les mesures exceptionnelles et contraignantes et la prise en compte des réalités économiques et sociales dans les pays africains?
Merci beaucoup. Je pense qu'ici au Niger, vraiment très tôt, le président de la République et le gouvernement ont pris des mesures très, très fortes et énergiques par rapport pour juguler cette pandémie. Nous avons plus ou moins réussi parce qu'à l'heure actuelle au Niger, on a à peine 38 malades. Il y a eu plus de 600 ou 700 et quelques, je crois, guéris. Et je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et pratiquement, nous avons libéralisé pratiquement tout, sauf peut-être les transports aériens. Et je pense qu'on a eu beaucoup de problèmes pour amener la population à comprendre cet état de fait. Il est très difficile, mais comme l'a dit quelqu'un, je vais paraphraser M. Ibrahim Meïa, qui est secrétaire éthique du Népal, qui a dit qu'on ne peut pas profiler la pauvreté. Et je pense que c'est tout à fait vrai que des pays comme au Niger ou ailleurs, où même au Sénégal, un peu partout, où les gens, pour avoir leur gain quotidien, il faut des bébés qui se lèvent le matin et retrouver leur quittance. Ne peut pas être vraiment astreint à rester à la maison, confiné. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans tous les cas, les mesures, ici aux mesures qui ont été édictées par le gouvernement, ont été acceptées, et ces mesures ont dû se lever, ce qui fait que nous avons presque jubilé, nous sommes presque vraiment, si on peut le dire, vraiment à la fin de cette pandémie, même si il faut continuer obligatoirement à observer les mesures préventive.
En Côte d'Ivoire, l'OMS s'inquiète justement du relâchement de la population qui ne respectait plus les mesures barrières.
Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec l'OMS. Mais madame, je suis en train de me demander, l'OMS, il y a des petites crises aussi au niveau de l'OMS. Pourquoi certains produits ne sont pas... Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'OMS aussi a fait pour chercher très rapidement les mesures curatives ou les médicaments curatifs par rapport à cette pandémie? C'est vrai qu'on parle de vaccins dans 6 mois, dans 1 an, mais il faudrait bien que aussi qu'on puisse appuyer les peuples à trouver par eux-mêmes et les médicaments à cette pandémie. En Afrique, le Madagascar a essayé, certains pays ont encore essayé la chloroquine, mais on nous dit encore que ce n'est pas possible. Mais ceux qui sont guéris de cette maladie, ils ont été guéris comment? Par quelle manière? Je vous pose la question, peut-être qu'on peut la poser à la messe, mais dans tous les cas, nous devons continuer obligatoirement à observer les mesures barrières, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Là, je suis tout à fait d'accord avec le maître sur ce point.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. On va écouter à présent les messages de nos amis internautes, un message posté sur notre page Facebook, recueilli et livré à présent par Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat_bbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/débat_bbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Loi sur les écoutes au Niger, Charles Bazema estime que la lutte contre le terrorisme n'est qu'un prétexte. Pour lui, la véritable intention du pouvoir en place serait de traquer les opposants. Gorgui, lui, pétiche, lui, s'intéresse plutôt à l'affaire de détournement de fonds au ministère de la Défense et demande à notre invité comment on en est arrivé là et quelle est la réaction de l'exécutif. Sur le sujet de la Guinée, notre internaute affirme que le président Alpha Condé a sûrement son agenda à lui, sinon il n'aurait pas fait un passage en force pour le référendum. Merci à Zakara Yahya Mohamed pour sa fidélité. Merci à Zakara Yahya Mohamed pour sa fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Africa-Africa Radio et sur Twitter @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous, Didier Ladislas Lando. On arrive à la fin de l'émission. S'il vous plaît, monsieur le ministre, c'est la tradition dans cette émission. En quelques secondes, une conclusion générale, s'il vous plaît.
Je voudrais tout simplement vous féliciter aussi pour cette émission. Et je voudrais faire un appel que j'ai toujours fait par rapport au peuple nigérien, au peuple nigérien d'abord, à l'Afrique. L'Afrique, à travers BBC Afrique, qui est une très grande radio, doit se dire une seule chose, que personne ne peut construire notre continent à notre place. Nous avons assez de ressources, nous avons assez de personnes intelligentes. Pour qu'ensemble, nous puissions trouver les solutions à nos différents problèmes. Nous devons poser tous les problèmes à terre. Comme on le dit, balle à terre, on la joue et on sort nos problèmes, nos pays de cette situation. Nous devons faire vivre toutes les échecs que nous avons, sous-régionales, régionales, pour qu'ensemble, nous puissions aller vers ce que moi j'appelle la refondation de l'Afrique. Nous devons nous-mêmes fonder notre Afrique. Personne ne doit le faire à travers la télécap, bien sûr, à travers une nouvelle monnaie, à travers beaucoup d'autres choses, à travers les richesses que nous avons sous la terre, dans la terre, partout, les eaux. Nous devons construire notre Afrique.
Merci.
Dans des pays de droit, dans des pays de démocratie et dans un dialogue constructif.
Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous étiez notre grand témoin dans cette édition de débat BBC Afrique, Africa Radio. Abi Mamadou Salissou, ministre de la Communication du Niger. Merci également à notre confrère Ousseynou Narguey, journaliste, éditorialiste, fondateur du site d'information tract.sn. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par Hugo Vallière. Chargé de production, Didier Ladislas Lando. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end à vous,
Bon week-end, Francis. Bon week-end. Au revoir.
Au revoir.